Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff.
Il y a exactement un an, enfin pratiquement un an, jour pour jour, un samedi 26 mai 2018, un enfant de 4 ans aurait chuté du 6e au 5e étage, avenue Max Dormois, dans le 18e arrondissement de Paris, et heureusement, il s'était raccroché à la rambarde, et heureusement, un immigré, un sans-papier, Mamadou Gassama, est venu le secourir. L'affaire a fait évidemment énormément, si vous voulez, de bruit, et c'était assez beau, en tout cas, et assez important, et assez exemplaire, que l'on voit un immigré secourir un enfant, le sauver, et il y a eu ce qu'il y a eu ensuite, on va en parler, mais surtout, vous savez, l'essence du journalisme, c'est d'avoir, non pas réponse à tout, personne n'a réponse à tout, mais d'avoir question à tout. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Y a-t-il eu chute et quelle chute? C'est sur ce sujet qu'on va aborder l'affaire Mamadou Gassama un an après. Nous allons en parler et nous allons en parler longuement en évitant aucune question.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h, André Berkoff.
Une histoire, on le rappelle, qui a ému toute la France et même dont on a beaucoup parlé dans le monde, mais on s'est posé aussi beaucoup de questions. Sur un samedi 26 mai 2018, vers 19h50, où un enfant de 3 ans et demi, 4 ans, aurait chuté du balcon de son logement, du logement de ses parents, au 6e étage, pour tomber un étage plus loin et se soit rattrapé à la rambarde. Et là, il était accroché à la rambarde et un jeune migrant malien sans papier, Mamadou Gassama, avait escaladé en moins de 30 secondes la façade à main nue et remis l'enfant à l'abri. Acte de bravoure qui avait valu l'admiration pour Mamadou Gassama. On se rappelle que 48 heures plus tard, lundi 28 mai, Emmanuel Macron a annoncé la naturalisation française de ce Malien et il lui a proposé d'intégrer les sapeurs-pompiers. Nous, on ne va pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé ou pas derrière. Ce qu'on veut dire et ce qu'on veut faire avec un certain nombre de scientifiques, c'est de savoir s'il est possible qu'un enfant de 3 ans et demi, 4 ans, puisse chuter d'un étage et se rattraper pratiquement sans égratignure ou pas avec ses tongs, comme ça, et qu'il soit ainsi ramassé, et tant mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Est-ce que c'est possible? La question, elle est fondamentale. Et vous savez, c'est très simple. Albert Londres, qui est l'ancêtre des journalistes, l'ancêtre de tout bon journaliste, avait dit que le rôle du journalisme est de porter la plume dans la plaie. Nous, on pose des questions. Bonjour, professeur Valérie Rousseau. Vous êtes docteur en physique, vous êtes professeur à l'université de Loyola à la Nouvelle-Orléans, et vous avez publié dans une revue scientifique de très haut niveau aux États-Unis une analyse tout à fait complète de l'affaire Mamadou Gassama, surtout évidemment pas sur l'affaire, mais sur la présumée chute de l'enfant du 6e au 5e étage. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus?
Il faut se mettre dans la peau de l'enfant. Imaginez, vous tombez de 3 mètres, non seulement vous devez attraper la rambarde, mais en plus, il faut que vous soyez capable de stopper votre chute.
Oui,
et là, ça c'est inimaginable, parce que pour un enfant de 3 ans et demi, être capable de stopper sa chute, c'est à peu près la même chose que d'essayer de stopper la chute d'une masse de 20 kilos qui tombe de 3 mètres de haut.
Oui.
C'est une chute libre de 2 mètres 50.
D'accord. Et
une chute libre de 2 mètres 50, quelle que soit la masse de l'objet qui tombe ou de la personne qui tombe, après une chute de 2 mètres 50, la vitesse d'arrivée, elle est de 25 km heure.
25 km heure, d'accord.
Voilà. Alors maintenant, imaginez stopper votre propre masse sur une distance de 50 cm, sachant que vous déplacez à 25 km heure. Il faut une force terrible pour ça, et dans le cas d'un enfant de 20 kg, la force serait de... je vais convertir cette valeur en kilogrammes. Donc 1176 newtons en kilogrammes, ça fait une force... Ça fait une masse, c'est la force nécessaire pour stopper la chute d'une masse de 120 kilos.
120 kilos. Ah oui, c'est-à-dire que l'enfant, donc, à ce moment-là, il a 120 kilos. Enfin, il pèse l'équivalent de 120 kilos, c'est ça?
Voilà.
D'accord, D'accord.
Donc, 6 fois son propre poids.
6 fois son propre poids. Et ça, pour vous, professeur Rousseau, c'est impensable. C'est impossible.
Oui. Oui. Et encore une fois, c'est sous-estimé. C'est largement sous-estimé.
Je comprends. Je comprends. Et pour vous, alors, donc, pour vous, l'hypothèse même de la chute est une hypothèse qu'on ne peut pas retenir, parce qu'on veut bien parler de miracle, mais enfin, ça me paraît difficile de parler de miracle dans ces circonstances.
Voilà, parce qu'en plus, bon, il faudrait déjà être bien entraîné pour avoir le réflexe de rattraper la rambarde, mais en plus, il faut une force surhumaine pour pouvoir stopper la chute. Je dis juste que tomber d'un étage et se rattraper à la rambarde, pour un enfant de 3 ans et demi, c'est impossible. Déjà, même pour un adulte, c'est difficilement réalisable. Peut-être avec beaucoup d'entraînement, je sais pas.
Oui, vous diriez même, disons, pour un adulte entraîné, même, je dirais pas un acrobate, mais pour un adulte entraîné, c'est difficilement pensable, quoi. C'est...
Oui, parce qu'encore une fois, l'adulte, il va devoir délivrer une force qui est égale à 6 fois son propre poids.
Oui, c'est énorme. C'est absolument énorme. Alors écoutez, moi je voudrais donc, tous les auditeurs de Sud Radio et tout le monde, vous consulter arxiv.org, le site arxiv.org. Il y a le papier, l'étude du professeur Valéry Rousseau, qui, encore une fois, qui est physicien, qui est scientifique, et je crois que c'est très important. Encore une fois, il ne s'agit pas, nous, d'accuser qui que ce soit. Nous non plus, là-dessus, on ne fait pas de politique, mais on regarde ce qu'on appelle la réalité et les faits. C'est très important. Merci beaucoup, professeur Rousseau, de votre témoignage. Florence Vivès, elle est docteur en physique en Belgique, au Centre commun de recherche de l'Union européenne. Elle a travaillé partout. Elle est chercheure en physique nucléaire jusqu'en 2001, date à laquelle elle a été recrutée par l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et elle a rejoint les Nations Unies. Et c'est en 2005 que Florence Vivès a rejoint l'Agence internationale de l'énergie atomique comme inspecteur nucléaire. Elle a été la seule femme à aller à Fukushima, et elle va dans le reste de l'Asie du Sud et du Nord-Est. Elle a été promue par les Nations Unies, elle a reçu 2 Merit Awards pour prestations exceptionnelles. Et elle parle 5 langues, ce qui n'est pas totalement négligeable. Florence Vivès est donc une scientifique incontestable. Elle a aussi entendu parler, et elle a vu sur vidéo, le sauvetage de l'enfant par Mamoudou Gassama au 51 de la rue Max Dormoy. Alors Florence Vivès, vous aussi, vous vous êtes posé des questions.
J'ai suivi le sauvetage du petit garçon par Mamoudou à la télévision. Étant persuadée que le petit bout de chou avait escaladé puis enjambé la rambarde du balcon, je ne tarissais pas d'éloges sur Mamoudou, évidemment. Valeureux jeune homme ayant risqué sa vie pour sauver un enfant, c'est exceptionnel. C'est alors qu'il fut expliqué à la télévision que l'enfant n'aurait pas escaladé la rambarde, mais serait tombé de 1, voire 2 étages au-dessus. Sans en passer par la physique, tout d'abord. Mais en ne faisant preuve que de bon sens, je ne pus m'empêcher de douter de ce scénario, évidemment, comme bon nombre d'entre vous. Demandons-nous en effet, par exemple, comment un enfant de 4 ans, dont la largeur de la paume des mains ne fait pas 3 ou 4 cm, aurait-il pu saisir la rambarde d'une largeur d'environ 10 cm ? C'est impossible. C'est alors que, de la même manière que le professeur Rousseau, je décidais de mettre en équation la chute de l'enfant pour en arriver exactement à la même conclusion que le professeur Valéry Rousseau aux États-Unis. Ce scénario est impossible, messieurs, dames. Car il contredit les lois de la physique d'un corps en chute libre, les lois de Newton, donc. L'application des lois de Newton au cas du petit garçon, et en prenant pour hypothèse un poids de 20 kilos, comme l'a fait le professeur Rousseau, montre que les avant-bras du petit garçon auraient dû encaisser une force équivalente à 6 fois son propre poids, c'est-à-dire, en partant de l'hypothèse d'un enfant de 20 kilos, une force de 120 kilos dans ses petits avant-bras. C'est impossible. Ce scénario de chute d'un ou deux étages n'est donc pas envisageable.
En aucun cas.
En aucun cas. Il n'y a pas d'intervention divine, il y a les lois de Newton. Point. C'est tout. Elles ne se discutent pas, les lois de Newton, pas plus que celles de Galilée ni celles d'Einstein. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire qu'on ne va tout de même pas remettre en question les lois de la physique, et donc celles qui régissent l'univers qui nous entoure, pour satisfaire au désirata de la bien-pensance.
Ah, la bien-pensance.
Ah, bien sûr. De plus, Je ne peux pas croire que personne dans les plus hautes sphères de l'État n'ait détecté la supercherie. Mais enfin, monsieur, sans passer par la physique, imaginez-vous un tout petit haut avec des toutes petites menottes qui encaissent 120 kilos dans ses mains. Ses mains auraient été pulvérisées. Il serait mort, le petit. Le pire dans tout ça, vous savez, c'est qu'étant donné qu'il ne peut pas être tombé et qu'il n'a pas enjambé la rambarde, quelle est la troisième possibilité à votre avis? C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a mis ici. L'enquête doit se concentrer sur ça, il faut identifier la personne. Je vais utiliser un mot assez fort, mais le pourri qui a risqué la vie d'un enfant, pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais il faut l'identifier, celui-ci. Il faut qu'il soit jugé. Ça n'est pas acceptable.
Laurent Deforge de Parny, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes docteur en physique, vous êtes enseignant-chercheur, oui. Vous êtes ingénieur aussi, et vous aussi, comme d'autres physiciens, comme d'autres scientifiques, vous êtes penché sur l'affaire, l'affaire on peut dire en tout cas, sur l'événement Mamoudou Gassama, le sauvetage de l'enfant. Et je voulais savoir d'abord, vous avez vu ça à la télévision, comment vous avez eu vent ou connaissance de cet événement?
Eh bien, il me semble que c'était à la télévision, puisqu'en fait, comme c'est une affaire qui a fait le buzz, évidemment, on a tous entendu parler de cette affaire.
Oui.
Et évidemment, on a tous, je pense, vu les images. On voit Mamoudou qui, justement, se comporte comme un héros et qui n'hésite pas à escalader les balcons pour aller secourir l'enfant. Mmh. Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est des images très
lyrique, très émotionnel, disons.
Très émotionnel, oui. Exactement.
Absolument. Bon, et la physique et l'émotion, c'est bien, mais c'est peut-être pas le couple idéal qui va se paxer, quoi. Pas vraiment.
Voilà.
Mais alors justement, dites-moi, qu'est-ce qui vous a frappé? Parce que moi, moi qui ne suis pas scientifique, j'ai eu la même réaction. Je me suis dit, mais cette chute d'un enfant de 3 ans et demi, il n'avait même pas 4 ans, entre le 6e et le 5e étage... enfin, en tout cas, d'un étage, comme on l'a dit. Comment ça peut se passer qu'il a été... Il s'est rattrapé à la rambarde, il a gardé ses tongs, il a pratiquement pas eu les égratignures ou de pied. Voilà, je voulais savoir comment vous avez, vous, réagi et si vous avez commencé à creuser cela.
Eh bien, alors, donc, j'ai lu l'article de Valérie Rousseau, du docteur Rousseau.
Oui, oui.
Donc, effectivement, hein, c'est de la mécanique. Mes étudiants de première année de fac peuvent faire tous les calculs très facilement, par exemple. Hein.
Oui.
C'est pas des calculs très compliqués.
Oui.
On se rend compte qu'effectivement, lors de la chute, tous les ordres de grandeur sont bons. C'est-à-dire, donc, il prend une distance de 3 mètres. Donc, il chute sur 2,5 mètres.
Oui.
Il prend un cas très, très favorable pour l'enfant, disons, où il freine sur une distance de 50 cm, qui est beaucoup, puisqu'un enfant n'a pas bras très, très, très grands, donc très longs.
Ouais, ouais.
Donc voilà, et quand on fait ce calcul, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il pèse à ce moment-là donc 6 fois son poids, donc 1100 newtons, et ça fait quand même beaucoup. Et
bien
là, il y a de grosses incohérences. Déjà, de quel étage tombe-t-il? Est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2? C'est pas clair du tout.
Oui.
Il est très peu probable qu'un enfant non entraîné dans une chute non contrôlée s'agrippe comme ça. Parce qu'effectivement, il y a des films, on voit des cascadeurs faire des cascades comme ça.
Oui, mais c'est des cascadeurs, comme vous dites.
Voilà, ils sont donc entraînés, ce sont des adultes, ils ont une force qui n'est pas la même, et ce sont des mouvements qui sont répétés et contrôlés. Donc là, par exemple, évidemment, moi, j'ai pas toutes les infos comme beaucoup de gens, mais par exemple, voilà, les questions qui me viennent, évidemment, c'est à quel étage l'enfant vivait-il, de combien d'étages est-il tombé, est-ce qu'on a retrouvé, par exemple, un escabeau sur son balcon, ou puisqu'il a dû escalader?
Alors justement, on n'a pas trouvé d'escabeau, mais il y a Florence Vivès, vous voudrez vous poser une question, professeur Laurence Deforge de Parny, allez-y Florence.
Non, c'était juste que on parle beaucoup donc des circonstances, mais je crois qu'ici les physiciens, là où on peut amener notre patte, ça sera surtout au niveau des calculs. Donc je pense qu'il faut vraiment, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai dit donc à André, du point de vue des calculs, la force de Newton à encaisser, ça serait donc l'équivalent d'un poids de 120 kilos, ce qui est impossible. Oui. Maintenant, il y a d'autres facteurs, comme vous l'avez très bien expliqué. Mais nous, du côté des physiciens, on arrive tous à la même conclusion, la physique l'interdit. Voilà.
Oui.
Voilà, Laurent. C'était juste un aparté.
Oui, voilà. Donc, sur le modèle physique, voilà, il y a évidemment des infos qu'on n'a pas. On peut peaufiner le modèle. Parce que, par exemple, dans l'article de Valérie, donc c'est un calcul qui est très simple. Alors, on peut toujours s'imaginer qu'il a utilisé, que l'enfant a utilisé ses jambes pour freiner. Et ça, par exemple, dans le modèle, c'est pas inclus.
Ouais.
Donc, il peut y avoir, voilà, éventuellement une action du bas du corps, des jambes, pour freiner durant la chute. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait revoir un petit peu le modèle. Mais il y a quand même de grosses incohérences, parce que si c'était le cas, l'enfant a été retrouvé en tongs.
Oui.
Donc ça a été dit dans plusieurs articles.
Ah oui, il est, c'est clair ça.
Et s'il avait utilisé ses pieds pour freiner en tongs, les tongs auraient très certainement, ce serait très certainement désolidarisé des pieds. Je veux dire, si vous essayez, vous allez perdre vos tongs puisque la force de friction est vers le haut, l'enfant chute vers le bas, donc les tongs, forcément, si vous freinez avec vos pieds, elles tiennent pas. Donc je veux dire, c'est une grosse incohérence, par exemple. À cette hypothèse qu'il ait utilisé ses jambes. Donc ça, c'est des questions que je me pose, par exemple.
Et l'absence de lésion, ça vous frappe pas? Enfin, d'après tous les témoignages, il n'y a pas eu grand-chose, heureusement, d'ailleurs.
Voilà, exactement. C'est l'information que j'ai cherchée. Il y a quand même eu, par exemple, là, dans le Figaro, le 28 mai, Mamadou a été auditionné. Il dit qu'il a retrouvé l'enfant blessé au pied. Le voisin a confirmé qu'il avait un ongle arraché. Donc, visiblement... Effectivement, s'il avait freiné, s'il avait par exemple employé ses pieds ou ses genoux, il aurait forcément des contusions ou des blessures.
Mais beaucoup plus fortes, non, quand même.
Oui, sans doute. Oui. Voilà. Donc ça, c'est
ouais.
Pourquoi comment l'enfant s'est retrouvé dans ces circonstances, c'est très obscur, en fait.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment le problème d'ailleurs central. C'est ce qu'a dit Valérie Rousseau, c'est ce qu'a dit Florence Vivet, c'est ce que vous dites.
Oui.
Le problème central, c'est cette chute, parce qu'ils ont tous avalisé la chute, parce qu'il n'était pas chez lui. Il s'est retrouvé, comme par hasard, en dessous à l'appartement du voisin, qui était d'ailleurs fermé, et ce qu'on a dit, je peux vous dire, il n'y avait ni escabeau ni chaise. Ça, on l'a vérifié. Oui,
C'est très obscur, effectivement, et c'est donc comme les calculs le montrent, c'est très peu probable en fait qu'une telle chute non contrôlée puisse aboutir à un enfant qui s'agrippe comme ça un ou deux étages en dessous.
Voilà trois témoignages de scientifiques chevronnés reconnus. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi, j'avais posé la question il y a un an. On en revient tout de suite après la pause, mais téléphonez 0826-300-300, 0826-300-300. On continue à parler de cette affaire tout de suite après sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Eh bien oui, dans tous mes états, dans tous nos états, comme d'habitude, mais surtout, surtout, avoir question à tout. Vous savez que c'est notre devise, c'est notre motto. Et là, nous parlons de ce qui s'est passé il y a un an, quand Mamadou Gassama a secouru l'enfant qui était accroché à la rambarde du cinquième étage, pas le sien, pas son appartement, du 51 de la rue Max Dormoy à Paris, dans le 18e. L'affaire a fait le bruit que l'on sait, et évidemment le symbole était formidable. Mais moi, à l'époque, je me rappelle, je me suis posé simplement la question, non pas du courage de Mamadou, non pas de quoi que ce soit, mais de dire, et je l'ai dit dans une chaîne télévision, je l'ai dit ailleurs, comment il se fait qu'un bébé de 3 ans et demi, qu'un enfant de 3 ans et demi puisse, sans pratiquement égratignure, chuter? Et à l'époque, mais j'étais pas le seul à poser la question, on m'avait dit, mais comment attendez, est-ce que ce ne serait pas une forme de complotisme? Est-ce que vous doutez? Et vous attentez au moral de la nation, c'était presque ça. Et puis c'était ce mot extraordinaire, circuler, il n'y a rien à voir. Mais comment on peut dire, quand une enquête commence, et ça faisait pas 48 heures, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a toujours tout à voir, sans être méfiant, sans être complotiste, sans quoi que ce soit, il y a à voir. Et nous avons interrogé tout le monde, y compris des personnes qui, d'ailleurs comme moi, comme vous, étaient très sensibles à ce qui s'est passé, à cet exploit aussi. Par exemple, le voisin Bernard Viarocco, il habitait au 5e étage, lui, et il a assisté à la fin de la scène. Il n'a pas assisté à la chute, bien sûr, il a assisté à le Mamoudou Gassama escaladant, le voisin étant à côté, ces vidéos que l'on a vues un peu partout à la télévision et sur les réseaux sociaux. Écoutez ce que dit Bertrand Vuarocco, que nous avions interrogé, il était à La Réunion à l'époque.
Moi, mon sentiment sur le sur l'ensemble de la chose,
oui,
c'est que c'est un bel exploit physique et un beau geste de courage de la part de ce garçon qui a escaladé la façade, mais l'exploit physique peut-être le plus extraordinaire, c'est celui du gamin.
L'enfant, oui. Ah bah oui. Ouais. Parce que honnêtement, faire ce déplacement, il faut le faire. Bah,
et parce que j'ai bien vu qu'il était à la fois choqué et je dirais terrorisé, mais il n'était pas tétanisé. Il répondait aux sollicitations de
son voisin. Entourage.
Il sentait les encouragements des gens en bas et non seulement il a entendu ce que lui disait le voisin, mais il y a répondu en se déplaçant justement, ce qui
d'accord. Mais vous, quand vous êtes revenu, pardon, après votre, quand vous avez essayé, etc., il s'était déjà déplacé. Vous n'avez pas vu l'enfant se déplacer.
Ah, j'ai vu la fin, si.
Ah, vous avez vu la fin, oui, d'accord.
Il changeait ses points d'appui sur les mains pour se rapprocher justement du voisin.
Et très important pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ou pas passé, parce que les zones d'ombre sont un peu restées, et on se disait effectivement l'histoire du sixième au cinquième, tout ça.
C'est ce que je trouve le plus incroyable, mais pas dans le sens où je n'y crois pas.
Vous dites qu'il n'y a en tout cas pas de loup, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de zone d'ombre pour vous, c'est clair.
Franchement, non. Ma réaction parce que du coup c'est moi qui suis allé ouvrir aux pompiers pour l'accès à la résidence. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec les policiers, etc. Et puis j'ai donné mes coordonnées parce que étant donné le quartier, je me suis dit, j'ai eu le réflexe en me disant, c'est pas impossible que ce soit quelqu'un qui soit sans papier, personne. Et j'ai donné mes coordonnées pour témoigner auprès de la police s'ils avaient besoin. Ma motivation au départ, c'était pour qu'il n'y ait pas de soucis.
Voilà, qu'il n'y ait pas de souci. Voilà, nous avons donné en toute objectivité, évidemment, le témoignage d'un voisin qui, lui, se réjouit, et à juste titre, du sauvetage, se réjouit de l'exploit de Mamoudou, se réjouit de la résilience de l'enfant, a assisté au fait, non pas, évidemment, pas du tout à la chute, telle qu'on l'a exprimé, enfin l'hypothèse de la chute et la certitude qu'on donnait de la chute, mais personne, à notre connaissance, n'a assisté à la chute, et il dit que l'enfant s'est déplacé jusqu'au voisin au moment où Mamoudou est arrivé. Bien, alors, le problème qu'on pose dans cette histoire, c'est l'enquête. Or, il n'y a pas eu d'enquête, ou pratiquement pas, en 48 heures, tout a été bouclé, et je suis très heureux d'accueillir Maître Florence Rowe, vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris, vous voyez, je me féminise, a participé au procès de Guy Georges, de Stranieri, de Big Malion, vous êtes sur les faits divers, sur le pénal, et vous avez écrit un livre remarquable que je conseille à nos éditeurs, La dictature de l'émotion, protection de l'enfant, aux éditions Belfond. Alors, Maître Laurence Rowe, je ne monte pas sur le fond de l'affaire. Vous avez écouté, je pense, les témoignages des scientifiques. Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, encore une fois, je l'ai exprimé il y a un an et je me suis fait traiter non pas tous les noms, mais enfin, on m'a dit, mais comment tu doutes, etc. Comment il se fait, en fait, qu'il n'y a pas eu d'enquête, il y a eu, tout le monde a admis, et puis voilà, tout le monde. Enfin, en tout cas, circuler, rien à voir, tout va bien, c'est magnifique, Légion d'honneur ou autre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est vrai que cette affaire peut faire poser quelques questions quand même, parce que ça a l'air si simple et si évident que finalement, personne ne s'est demandé comment un tel miracle avait pu se produire. J'ai entendu parler tout à l'heure de miracle, vous l'évoquiez. Alors bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est vrai que quand on écoute les témoignages des experts que vous avez sollicités, ça paraît assez difficile d'imaginer que cet enfant et puis, comme ça, dégringoler deux étages, se rattraper comme un acrobate aguerri, ne perde même pas ses tongs, ne présente aucune blessure, alors que si tant est qu'il se soit, les choses se soient déroulées comme on le dit, il aurait quand même au moins présenté des blessures aux mains, il aurait certainement des blessures aux pieds, puisqu'il aurait freiné, comme je l'ai entendu dire, et il aurait perdu ses tongs. Tout ça me semble très improbable. Alors, c'est un joli conte de fées. On a un enfant qui a été miraculeusement sauvé, c'est formidable, et un jeune garçon qui a escaladé la façade de cet immeuble de manière incroyable. Et moi-même, quand j'ai regardé les images, comme tout le monde, aux informations, j'ai trouvé que c'était formidable. Et bien évidemment, que ce jeune homme soit... félicité, c'était le moins qu'on puisse faire. Il a sauvé l'enfant, c'est indéniable. Mais pour autant, je veux dire, une fois qu'on a tous donné dans l'émotion et qu'on a tous compati, c'est vrai que des questions quand même se posent. Et c'est vrai qu'il est surprenant, au minimum, qu'il n'y ait pas eu une information d'ouverte. On l'entend à longueur d'ondes, que dès lors qu'il se passe le moindre fait quelconque, une information est ouverte et le procureur s'exprime et réclame que justice soit faite, que lumière soit donnée. Il arrive aussi que les présidents de la République successifs aient demandé justement que la lumière soit faite sur une affaire. Là, miraculeusement, mais on est dans le miracle permanent de A à Z, on l'a compris, à ce moment-là, personne ne se pose aucune question et aucune expertise n'est demandée, ce qui est quand même étonnant.
Oui, c'est ça qui est étonnant. C'est ça, c'est il y a ça. Quand même eu quelqu'un, enfin, un enfant qui a été sauvé d'une mort certaine et affreuse. Il y a eu cela. Il y a cette vidéo, on voit le voisin qui ne peut pas le prendre ou qui peut le prendre. Enfin bon, on ne va pas discuter là-dessus. Et puis, il y a surtout cette évidence de la chute. Or, encore une fois, personne n'a vu la chute, mais on peut se poser la question, s'il y avait eu enquête, il y a des voisins, il y a des gens, est-ce qu'on ne peut pas parler aux voisins? En fait, ce qui a été frappant, Maître Rowe, c'est qu'on a l'impression que, vraiment, on l'a clos, tout va bien, c'est magnifique, c'est beau, et effectivement, c'est beau, la morale, il trouve son compte, l'émotion aussi, mais est-ce que c'est comme ça qu'on opère?
Normalement, non, et dans d'autres circonstances, ça n'aurait pas été réglé de cette manière, donc, en tout cas, rien n'empêche de se poser les bonnes questions, rien n'empêche de chercher, rien n'empêche de se demander également pourquoi les parents n'étaient pas là, pourquoi le père était parti, enfin, oui, on a l'impression...
Pokémon Go, paraît-il.
Formidable, mais s'ils sont des enfants entre eux, enfin, je ne sais pas, il y a un petit problème quand même, mais lui, c'est un adulte. Ouais. Et voyez, moi, ce qui me choque aussi, au-delà du fait qu'il n'y ait pas eu la moindre question posée sur la chute elle-même, c'est que finalement, je me rends compte que dans tout un tas d'autres circonstances, la moindre défaillance des parents entraîne quand même l'intervention de l'aide sociale à l'enfance, des éducateurs, des juges pour enfants, enfin, de toute l'artillerie habituelle.
Alors, il a été sanctionné.
Il a été sanctionné, vite fait, bien fait. D'accord.
Oui.
Et en même temps, je n'ai pas compris qu'on lui ait retiré son enfant ou qu'on ait fait en sorte que des mesures soient prises pour l'accompagner dans sa parentalité, comme disent les instances concernées. Et du coup, on lui a remis son enfant, qui a quand même été mis dans une situation de danger extrême, malgré tout, enfin, se retrouver comme ça, accroché au balcon d'un immeuble avec la mort certaine en bas, enfin, c'est quand même juste surréaliste.
Où il est resté 6 minutes. Hein,
où il est resté 6 minutes. Non, mais attendez, qu'un acrobate, même, enfin, si on mettait quelqu'un de super entraîné, et je pense que c'est juste du bon sens et de la physique, hein, c'est mathématique ces trucs-là, donc il n'y a même pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination. Je pense qu'il n'aurait pas résisté et qu'il n'aurait pas pu tenir là, donc on se demande comment c'est possible. Mais au-delà de ça, en plus de ça, c'est vrai qu'on a vite fait passer sur le rôle du père et sa défaillance, qu'on ne sait pas du tout maintenant ce que fait cet enfant et comment le père s'en débrouille. La mère, on n'en parle pas parce que, je ne sais pas, elle était partie en vadrouille quelque part.
Oui,
on sait pas
à la
très
Réunion,
bien
je ne sais pas où elle
voilà,
est.
Voilà, mais peu importe, je veux dire, enfin, chacun importe, vit ouais. sa vie comme il veut. Mais bien il y a quand sûr. Même des règles, au-delà des règles de procédure pénale qui régissent toute enquête et tout fait comme celui qui nous préoccupe et qui aurait dû donner lieu à des investigations complémentaires. Il y a aussi des règles dans le code civil, qui est un autre code qui s'applique à tout le monde, et de protection de l'enfance, qui s'applique aussi à tous les parents et à tous les enfants. Et cet enfant, aujourd'hui, n'est pas suivi. Vous imaginez un peu le retentissement psychologique que ça peut avoir chez ce petit bout de chou de 3 ans et demi, de se retrouver suspendu comme ça, on dirait Batman, et on dirait tout d'un coup qu'on a Bruce Willis qui est arrivé, comme dans tous les bons films, où tout se passe bien, malgré les catastrophes interplanétaires. Donc, c'est surprenant et c'est surréaliste, et je dis, comme beaucoup de gens, sans être complotiste du tout, hein, moi je remets pas... tout peut arriver,
nous
effectivement,
plus, sûr,
un miracle peut aussi se produire. Mais quand même, je pense qu'une instruction aurait pu nous permettre de faire au minimum les expertises que les scientifiques ont réalisées d'eux-mêmes.
Et c'est eux qui nous ont donné, vous savez qu'avec Clémence Oudiakova qui a fait l'enquête avec moi, c'est eux, c'est en tombant sur le papier du professeur Rousseau, qui lui-même a dit mais qu'est-ce qui se passe ? On va continuer à en parler avec Florence Rowe, avec maître Florence Rowe, on va continuer de parler de cette affaire.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Que s'est-il vraiment passé dans ce sauvetage par Mamoudou Gassama de l'enfant du 51 rue Max Dormoy ? Comment a-t-il pu chuter du 6e au 5e sans pratiquement une égratignure ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Mais au-delà, vous avez écouté les témoignages de 3 scientifiques qui sont d'accord pour dire qu'il y a vraiment un problème et même une impossibilité. Et là, nous sommes avec maître Florence Rowe. Nous allons rejoindre après maître Patrice Charles. Florence Rowe, est-ce qu'il n'y a pas un problème au fond ? Moi, je suis frappé. On a parlé, vous avez dit l'enquête comme ça en général. Et Dieu sait si vous en avez fait des affaires, comment les choses s'ouvrent. Prendre du temps, etc. Là, on dirait que tout s'est passé comme si, surtout, il fallait que l'enquête, c'est une histoire magnifique, merveilleuse, et on n'en parle plus, et tout va bien.
Alors, je ne sais pas pourquoi on n'a pas réalisé d'enquête, pourquoi une information judiciaire n'a pas été ouverte. Je ne sais pas s'il y a des motivations, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la manœuvre derrière. Ça, évidemment, c'est une question à se poser peut-être, mais moi, je n'en sais rien, c'est une autre
bien
question.
Sûr.
Toujours est-il qu'effectivement, on peut toujours... se dire que l'histoire est merveilleuse et qu'on n'a pas envie de décorner cette image merveilleuse. Mais quand même, là, on est dans une situation qui forcément relève de la justice. Et la justice, c'est la recherche de la vérité. Or là, la recherche de la vérité, on y a renoncé. Pourquoi, je ne sais pas. Qui y a renoncé, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, manifestement, puisque rien n'a été entamé, aucune recherche n'a été entamée, aucune enquête n'a été ouverte sérieuse, je dois me rendre à l'évidence, comme tout le monde, qu'en effet, on n'a pas voulu revenir sur cette belle histoire qui nous a été servie en boucle sur tous les médias, et qui, alors peut-être, nous fait rêver dans une période qui n'est pas drôle.
Difficile, oui.
Voilà, qui peut-être... redore le blason de je ne sais qui d'ailleurs. Vous voyez, mais enfin, il y a quand même là, à un moment donné, sans doute, la volonté de ne pas revenir sur cette histoire qui se termine bien. Et je dirais même que l'histoire se termine bien, on en est tous heureux. Il
n'y
a pas de contestation là-dessus.
Bien sûr.
Mais ça n'empêche pas. Et l'émotion elle-même de cette scène n'empêche pas que l'on se pose des questions normales et sensées et que les gens dont c'est le métier, c'est-à-dire la justice, le procureur de la République et tous ceux qui travaillent avec lui, se posent la question. Et les médias aussi, qui ont un rôle très important dans ce type d'affaires, puisque on nous matraque quand même d'images, de propos, et on nous fait entrer dans le crâne une idée unique, comme si... On voulait, mais je ne sais pas si c'est ça, comme si on voulait qu'on ne se pose surtout pas de questions.
Alors justement, nous sommes là avec vous, à Sud Radio, pour en poser. Nous allons poser à maître Patrice Charles. Bonjour maître Charles.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes avocat et élu DLF à d'où la France à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Vous êtes avocat à Créteil, je crois, c'est bien ça ?
Oui.
Et alors, vous avez suivi cette affaire, vous avez écouté ce que disent les scientifiques qui effectivement nous ont mis sur cette piste parce que nous avons recherché. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre...
Moi, je voudrais mettre les pieds dans le plat.
Oui.
Il devrait y avoir une émission de radio qui s'appellerait Donc.
Donc, oui. C'est-à-dire.
C'est-à-dire qu'un principe de conséquence par rapport à ce que vous avez indiqué au niveau des témoignages scientifiques et autres. Et c'est la mode du en même temps, ben, on okay. peut passer au donc. Le donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des éléments qui posent problème, et ma consœur l'a confirmé.
Oui.
On a une infraction qui s'appelle l'escroquerie à jugement, qui est fondée sur l'article 331.1 du Code pénal. Et on a une impossibilité pour le citoyen lambda, normal, de poser une question judiciaire. C'est-à-dire que le donc des processus scientifiques, de la constatation matérielle qu'il y a un problème, ne peut pas être exposé judiciairement.
Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais. Vous voulez dire que moi, je ne peux pas, moi, citoyen, dire, écoutez, j'ai écouté, par exemple, ces scientifiques, il y a quand même pour le moins un problème, je ne peux pas, moi, saisir la justice ou poser une question.
Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que j'élargis le débat. Notre-Dame de Paris, on ne sait pas. L'attentat de Lyon, on a une affaire qui, petit à petit, donne des éléments. Et on a une troisième affaire qui est surmédiatisée sur le plan judiciaire. C'était cette affaire de conception au niveau de ce qui se passe globalement. C'est-à-dire que bêtement, je dirais. Le citoyen est face au défaut, et ma consœur me confirmera là-dessus, qu'il n'y a pas d'intérêt à agir. C'est-à-dire qu'on est face, nous, citoyens, à un problème de défaut d'intérêt à agir. Soit vous avez un intérêt à agir, vous le laissez, vous avez un intérêt direct, personnel, certain, ou soit vous ne l'avez pas.
Ouais.
Et là, on est en otage. Le troisième problème, excusez-moi, c'était Vincent Lambert.
Non, mais on va pas trop rester sur toutes ces affaires parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je voudrais, Patrick Charles, je voudrais rester quand même sur notre affaire.
Le contexte général, c'est que le citoyen va écouter votre émission avec plaisir, va voir avec plaisir qu'il y a des problèmes, mais il ne peut pas concrètement passer à l'acte. C'est pour ça que le donc, il n'existe pas. Alors, soit il y a le défenseur des droits qui est prévu par la Constitution, qui n'est pas saisi, soit il y a des associations multiples de défense des enfants, des défenses de tout ce qui se passe en France, qui ne peut pas se saisir de ce dossier.
Oui, parce que comme disait Florence Vivès, ce pauvre bout de chou qui est posé là sur le balcon, c'est quoi ça? Qui l'a posé sur le balcon? Enfin, en tout cas, on peut se poser une question. Voilà.
Mais surtout, après, qu'est-ce qui se passe après? Le voisin n'est pas récompensé, le voisin n'est pas récompensé.
Oui.
Seul Mamoudou est récompensé.
Ouais.
Le voisin qui a réellement peut-être sauvé l'enfant n'est pas récompensé. On a l'impression que tout ça, c'est une mise en scène pour l'obtention de quelque chose d'autre qui dépasse ce qui s'est passé. Or, c'est là où je mets les pieds dans le plat, personne n'enquête.
Ouais.
Et après, on nous parle de complotisme. Si on veut enquêter, votre émission sera déclarée complotiste parce que elle se demande, elle se pose des questions. Vous avez raison, la définition du journaliste, c'est la question.
Si le journaliste se pose pas des questions et on n'enquête pas, on se demande ce qu'il fait. Et à quoi il sert.
Et alors, vous allez avoir donc votre émission qui va poser une question.
Ouais.
Il n'y aura pas de réponse, mais le citoyen va se dire comment on fait? Comment on fait pour avoir une réponse?
Vous posez un véritable problème, c'est vrai.
L'association n'avait le droit de se constituer partie civile, de demander des explications. C'est ça le problème. Le réel problème, ce n'est pas la réponse, c'est l'explication et l'explication coordonnée, la demande d'explication, des scientifiques. Ça veut dire qu'ils se fondent sur la loi de Newton, qui est un aspect scientifique. C'est vrai ou faux. Ne peut pas être transcrit dans le domaine judiciaire. Ça pose un réel problème.
Patrick Charles, vous posez vraiment le problème. Florence Roux, vous êtes d'accord avec votre confrère?
Alors oui, parce que en effet, l'intérêt à agir est un véritable problème dans cette affaire, puisque personne ne peut venir à la place des vraies instances dire on est victime de quelque chose en droit pénal. En
procédure Non, c'est même pas qu'il n'y ait pas de meurtre ni rien.
C'est que, vous savez, dans les affaires politico-financières, personne n'est mort non plus. Et pourtant, vous avez une association qui est quand même très très présente, l'association Anticorps par exemple, qui n'a de cesse que de poursuivre et de déposer des plaintes.
Et là, il n'y a pas eu d'association.
Alors là, il n'y a personne qui est venu demander quoi que ce soit. Donc déjà, ça pose aussi une autre question. Je pense que dans toute cette affaire, c'est l'opacité qui inquiète. Et cette opacité qui suscite le débat et qui fait se multiplier les questions. Et je pense qu'après cette émission, vous aurez encore beaucoup de questions, parce que les auditeurs ne sont pas stupides. Les gens réfléchissent comme vous et moi, et se sont aussi posé des questions aussi simples et basiques que celles que l'on vient de poser, et qui sont posées par les scientifiques, et avec des réponses que l'on vient d'entendre, et qui sont tout aussi limpides.
Limpide,
alors, oui. Je crois que, si vous voulez, le meilleur moyen de confirmer qu'on a eu affaire à un miracle, que c'est une histoire merveilleuse à laquelle on doit croire, le meilleur moyen, ce serait de faire l'enquête et de présenter loyalement les conclusions de l'enquête.
Merci Florence Rowe, merci Patrice Charles, merci à tous et merci à Clémence Oudiakova. Il y a eu une enquête de fait, on va continuer là-dessus, et merci aux auditeurs de Sud Radio. N'hésitez pas à nous re-suivre, comme vous le savez, en podcast, en Facebook Live, sur YouTube et sur sudradio.fr, et évidemment au 0826 300 300.
Et merci à vous André. Berkoff dans tous ses états revient demain midi. Dans un instant, l'actrice, réalisatrice et romancière Laetitia Colombani se confie à Jacques Pessis dans Les Clés d'une vie, de 13 à 14 heures. Bon après-midi sur Sud Radio.